Alors, j'ai choisi aujourd'hui le thème de science versus Genèse, science contre Genèse. C'est souvent deux théories qui s'affrontent. Hein. On voit des kangourous là, qui se mettent bien sur la tête. Souvent, on voit la science qui ne veut pas du tout entendre parler de ce qui se passe dans la Genèse. Hein. Voilà, c'est vraiment des théories farfelues, illuminées. Et de la même manière, ceux qui, les théologiens, ou même nous qui lisons la Genèse, on n'a souvent pas du tout envie d'entendre parler non plus des théories de la science concernant la création, puisque, comme on le disait un petit peu, chacun a ses idées bien établies, un peu, ce qu'on peut dire, rigides, mais bon, voilà. Nous, on croit vraiment que c'est Dieu qui a créé la Terre, beaucoup, enfin, il y a eu toute une évolution sur la Terre, la création de la Terre en 7 jours, les créationnistes, n'est-ce pas? Et les sciences, évidemment, les scientifiques ne veulent absolument pas entendre parler de ça. Alors, pourquoi j'ai choisi ce thème? En fait, c'était suite au visionnage d'un reportage d'une série qui s'appelle Grand Format et qui était intitulée « Et si la Terre était unique ?» Alors, j'avais très très envie de le regarder parce que qu'est-ce qui est dit? Et si la Terre était unique? Et alors, qui se terminait? La conclusion était celle-ci. L'apparition de la vie sur Terre, c'est le hasard multiplié par une suite de hasards. Bon, alors, là, c'est là, vous prenez un coup du kangourou, là, le hasard multiplié par une suite de hasards. Alors, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais Seigneur, c'est vraiment, comme il dit dans Luc 11, tu as caché cela aux sages et aux intelligents, et tu l'as révélé aux petits-enfants. Et aussi dans Ésaïe 6, ils ont des yeux et ne voient pas, ils ont des oreilles et n'entendent pas. Et oui, ce sont des hasards monstrueux de génie, époustouflants d'ingéniosité. Une suite tellement, moi je trouve, tellement ininterrompue de hasards, je vais en lister quelques-uns, que franchement, moi je serais scientifique, ça deviendrait embarrassant autant de hasards. Je sais pas, mais en plus on a d'autres modèles cosmiques que la Terre. On a Mars, on a Vénus, qui sont tout près de nous, chacun de chaque côté, qui nous ressemblent énormément à la Terre. Et donc on peut comparer qu'ils changent, il y a un tout petit détail dans l'équilibre qui change, eh bien la vie n'est plus possible. Alors, j'ai quand même voulu, je ne vais pas faire un cours de SVT, mais on va quand même louer notre Seigneur par ces hasards qui sont tellement incroyables. J'en ai listé 8, bon, je vais faire rapidement, hein. Mais pour moi, je trouve que c'est tellement beau qu'on dirait vraiment la main de Dieu qui conduit toutes choses. Alors, le premier hasard, non, c'est peut-être l'autre côté, non plus, là, en fait, voilà. Le premier hasard, en fait, on aurait pu commencer déjà très très mal depuis le début, parce qu'on a failli dès le début se faire faucher notre place par Jupiter. Alors on voit ici, hein, on a Mercure, Vénus, la Terre, Mars et Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire. Et comme on a d'autres modèles cosmiques d'autres systèmes solaires, on sait que généralement c'est la plus grosse planète qui va s'approcher de son Soleil. Hein. Il va y avoir comme ça, vous savez qu'il y a un jeu de force comme ça, d'attirance, où on se repousse. En principe, dans les autres modèles cosmiques, c'est toujours la plus grosse planète qui s'approche, qui aurait dû prendre tout à fait la place de la Terre. Parce qu'en fait, quand les planètes se forment, elles tourbillonnent comme ça, elles avalent tout un tas de poussières, enfin des poussières cosmiques, hein, ce n'est pas celles que vous avez sous votre tapis, et puis ça roule, ça roule, ça roule, ça fait une ellipse comme ça, ça se forme, ça fait une espèce de boule de neige, et puis ça prend sa place, et puis ça vient un petit peu se jouer comme ça de puissance, et donc Jupiter aurait dû être là. Mais le Seigneur veillait, et il a envoyé, comment elle s'appelle celle-là, Saturne. Il a envoyé Saturne vers Jupiter, qui en fait a fait reculer Jupiter, mais ne me demandez pas comment, mais a fait reculer Jupiter, qui est venu prendre sa place. Et on a eu chaud déjà dès le début, on a pu avoir la Terre qui a pu se former donc à la troisième place. Et c'est super important, évidemment, parce qu'il faut qu'il y ait une juste place par rapport au Soleil, ni trop près, ni trop loin, pour que tout puisse bien s'organiser. Le deuxième petit hasard, pardon, c'est dans l'autre sens, c'est le choc avec Théia. On a vu que la Terre se forme de poussière, hein, et puis il y a un peu d'eau qui est dans le noyau, comme ça, et aujourd'hui, on sait qu'il y a 70% d'eau sur notre Terre, un chiffre absolument parfait pour tout l'équilibre. Mais au début, dans la Terre, il n'y avait pas assez d'eau. Alors, les scientifiques ont vu qu'il y a en fait une autre planète qui s'appelle Théia, qui est venue fracasser la Terre comme ça, hein, parce qu'à l'époque, ça se jouait beaucoup aux autotamponnantes dans l'univers, hein, ça se fracassait de tous les côtés, météorites, astéroïdes, tout ça. Alors, le grand hasard, c'est que Théia a percuté la Terre juste comme il faut, encore un grand hasard. C'est-à-dire pas de façon frontale, ou alors les deux se seraient totalement explosés, ni pas non plus de façon juste latérale, où ben voilà, ça serait plus juste frotter, puis elle serait partie, mais exactement le bon angle pour qu'en fait les deux planètes fusionnent, et que les deux noyaux fusionnent, et etc. Et laisser assez de poussière pour former une lune, qui était quand même assez importante. On est les seuls encore de l'univers, quel hasard, à avoir une lune qui soit aussi importante. On verra à quel point c'est vraiment important aussi pour l'apparition de la vie. Donc voilà, encore le deuxième hasard hein, de cette Théia qui nous percute juste comme il faut. Troisième hasard, toute cette eau donc, qui était agglomérée dans le noyau, il faut qu'elle remonte, hein, il faut qu'elle revienne pour créer une atmosphère. Alors ça, c'est l'activité des volcans. Moi, je me suis souvent demandé, mais les volcans, à quoi ça sert ? Les volcans, à quoi ça sert ? On les craint, ils font quand même des désastres sur la Terre, on les voit quand ils commencent à... Voilà, ils ont d'ailleurs créé par la suite, assez souvent, la disparition de quasiment la totalité de l'espèce animale. Eh bien, en fait, ils sont extrêmement importants, les volcans, parce qu'évidemment, ça remonte depuis les profondeurs, comme ça, et ils remontent un gaz qui est composé de 95% de vapeur d'eau. En fait, voilà, voilà, le volcan, il va aller chercher cette eau qui était tout au fond des noyaux, bien cachée, et en son temps voulu, qui va comme ça faire remonter la vapeur d'eau jusque dans la Terre, sur la Terre. Et un grand hasard aussi, donc là, il va se charger de nuages, hein, et puis ces nuages, en fait, vont faire qu'il va pleuvoir pendant des millions d'années. Voilà, pas trop se plaindre, nous. C'est des millions d'années. Et alors, ce qui est encore un hasard assez fabuleux, c'est qu'il y a un thermostat naturel qui va se créer. C'est bizarre, hein, quand même bizarre, un thermostat naturel qui se crée tout seul avec ses petites jambes musclées. Et oui, alors donc, il y a le CO2 qui se forme. Alors, je ne veux pas trop vous expliquer comment. Donc, le hasard, ça pleut. Et puis, quand il y a trop de CO2, ben, en fait, le CO2 est soluble dans l'eau et il se redépose dans l'eau. Il va se mettre comme ça dans des sédiments. Et puis, tout ça fait que l'eau ne gèle pas, ni elle ne s'évapore pas. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que ce thermostat fait que l'eau va rester et les océans vont se former peu à peu, permettant qu'il n'y ait ni trop de glace, qu'il n'y ait pas de glace et qu'elle ne s'évapore pas. Tout ça s'équilibre. Voilà, alors encore un petit hasard. Et puis encore un autre hasard, c'est ce phénomène des tectoniques des plaques. Là aussi, je me suis interrogée pendant des années en disant « Mais Seigneur, ces tremblements de terre, ces plaques qui se frottent, là, qui s'entrechoquent, c'est quand même... t'aurais pas pu faire que la Terre elle soit bien ronde, bien tranquille. Hein. » Et en fait, c'était extrêmement important au début de l'univers parce que tout ce sédiment qui se sont posés tout en bas, tout au fond, en fait, il fallait un moment qui remonte pour refaire un équilibre encore. Il fallait que le CO2 remonte à la surface. Et puis, c'est ces plaques qui vont, en fait, en se frottant, vont aller... réchauffer ce CO2 qui était sous forme de sédiment et du coup qui va remonter sous forme de liquide et ensuite sous forme de vapeur et se remettre dans l'atmosphère. Il y avait Agnès Sandford, pour ceux qui la connaissent, elle est morte maintenant, une grande prophétesse qui était aux États-Unis et qui, elle, s'était installée sur la faille de Sant'Andrea, donc sur la côte ouest des États-Unis, et qui priait tous les jours pour que les plaques bouge, mais en douceur, pour qu'il n'y ait pas de tremblement de terre et qu'il n'y ait pas de tremblement de terre, de dégâts. Alors là, encore un hasard dans ce hasard, c'est que les scientifiques ont vu qu'il fallait pile 10 plaques. C'est exactement nous, on a 10 plaques qui bougent. Hein. Et bien, en fait, il fallait qu'il y ait 10 plaques. Si on avait 11 ou 9, ça ne marcherait pas aussi bien. Voilà, c'est encore un grand hasard. Hein. On pourrait lire dans Job 38, « Qui a creusé des gorges pour les torrents d'orage et frayé la voie à la nuée qui tonne ?» pour faire pleuvoir sur une terre sans homme, sur un désert où il n'y a personne. Alors on continue, on arrive au sixième hasard. Voilà, il faut qu'il y ait une lune. Voilà, la lune, en fait, elle équilibre notre axe de rotation. On a un axe de rotation, je vais vous dire, de 23,5 degrés, Et en fait, cet axe de rotation, il ne faut pas qu'il bouge, vous voyez. On voit qu'il a un axe, là, il est bien préservé tout le tour. Il ne faut pas qu'il bouge, cet axe. Et ça, c'est la Lune qui permet, par la force d'attraction, qui permet que cet axe ne bouge pas. Alors que sur Mars, il bouge sans arrêt. Il va sans arrêt bouger. Nous, il ne faut pas que ça bouge parce qu'il faut que les saisons s'installent durablement. Voilà. Il faut que les saisons puissent durer pour que la vie puisse apparaître après. Il faut que les saisons puissent s'installer. Alors là, c'est quand même aussi extraordinaire, cette Lune qui est là. On va faire court. Hein, voilà, il faut qu'il y ait la Lune pour que cet axe ne bouge pas. Alors, maintenant, on a vu qu'il y avait un climat qui était stable, une atmosphère bien équilibrée, de l'eau liquide, 70%, pile juste ce qu'il faut, encore un grand hasard. Il nous faut maintenant la vie, quoi, des molécules organiques. Hein. Alors en fait, ce sont les météorites qui vont apporter les molécules organiques, on appelle les molécules organiques originelles. Alors le scientifique qui parlait, disait, les météorites vont apporter les molécules organiques originelles. Alors moi, j'ai envie de dire, mais molécules organiques originaires. Mais oui, mais à l'origine, alors, qui est-ce qui les a mis sur les météorites? C'est... Bon, alors là, c'était une question embarrassante, il ne fallait pas la poser. Là, on ne sait pas, personne, on ne pose pas cette question. Hein. Voilà, donc les météorites, en tout cas, arrivent hein, et elles apportent ces molécules originelles. Voilà, Seigneur, tu as caché cela aux sages et aux intelligents. Voilà, donc ces météorites arrivent et puis elles apportent tout ce dont on a besoin pour faire la vie. Et puis, pour terminer, quasiment, oui, on en est au 7, au 8, ces molécules de vie vont former ce qu'on appelle des cyanobactéries. Et là aussi, c'est assez drôle parce qu'il disait, quand la membrane de graisse va être inventée, oui, mais par qui, pouvez nous dire, là, quand la membrane de graisse va être inventée, bon, alors là, c'est question embarrassante aussi, en fait, voilà, cette membrane, là, va permettre à toutes ces colonies, en fait, ils ne se divisent pas, mais chaque colonie va se former dans une membrane de graisse et va être préservée. Là, on a plein de cyanobactéries, voilà, qui vont se former, hein, et le hasard, encore, va choisir, dans les météorites qui ont 60 acides aminés, ils vont en choisir que 20. Et alors, c'est intéressant parce que, ces tout petits ingrédients, là, ces 20 acides aminés dans les cyanobactéries, eh bien, on en est tous issus. Tous. Les arbres, les végétaux, les animaux, et même nous, ces grands hommes intelligents, eh bien, nous, on est issus de ça seulement, de cette petite patte-là. Et là, vraiment, reconnaît la main de Dieu qui fait des choses extraordinaires à partir de choses tellement, tellement, tellement simples. Alors, pour terminer, voilà, ces cyanobactéries vont réussir aussi à créer leur propre nourriture avec leurs petits bras musclés. C'est extraordinaire, ça, quand même. Avec leur glucose, elles vont créer la photosynthèse qui va permettre l'oxygène. Enfin, non, mais il y a tellement de hasard. Moi, je ne sais pas, je serais scientifique, je serais vraiment embarrassée. Hein. Alors, on pourrait penser que tout est bien qui finit bien. Voilà, la vie, elle va évoluer, elle va prospérer. Voilà, les animaux, les hommes, etc. Mais en fait, on va s'apercevoir que... Il y avait un adversaire qui rôde. Il y a un adversaire qui rôde et qui va... La vie, ça va être une lutte à mort, une lutte à mort perpétuelle. À moins 500 millions d'années, 85% de la vie va disparaître. À moins 300... Alors, à chaque fois, ça renaît. On connaît ça, un petit reste. Hein, on connaît ça aussi dans la Bible. Dieu préserve un petit reste. 350 millions d'années, 3/4 des espèces disparaissent. Au Permien, là, je ne sais pas où se trouve le Permien, là, quelque part. 95% des espèces disparaissent. Seuls des animaux de 1 mm vont survivre. Et à chaque fois, ça repart. Au Jurassique, on le connaît, celui-là, seuls les dinosaures vont survivre. Et puis aussi, à moins 66 millions d'années aussi. Voilà, chaque fois comme ça, une espèce de lutte comme ça. Et on voit ici qu'il y a des forces qui sont en jeu. On peut lire ça dans la Genèse. Dans un commencement, Dieu a créé les cieux et la terre était informe et vide et ténèbres sur la face de l'abîme. La terre était informe et vide et ténèbres sur la face de l'abîme. Comment Dieu, qui est plénitude, qui est lumière, peut au départ être sur une forme, une terre informe et vide avec des ténèbres? Et ça, là, on s'aperçoit qu'avant déjà la création de l'univers, il y avait déjà eu cette grande rébellion de Lucifer qui a entraîné les anges. Déjà, ces forces vraiment sont déjà, l'adversaire est déjà présent là. Et on voit que l'adversaire va œuvrer en permanence pour détruire cette vie, pour détruire. Hein. Les forces du mal vont déjà être à l'œuvre et vont être à l'œuvre tout le temps. Hein. Alors, puisqu'on en vient à la Genèse maintenant, comment concilier ce récit qu'on ne peut pas nier des scientifiques, qu'on ne peut pas nier, hein, avec le récit de la Genèse, d'une création en 7 jours. Est-ce qu'on va toujours, jusqu'à présent, ils étaient quand même dos à dos, les scientifiques et les théologiens, hein. D'ailleurs, quand Darwin a publié en 1859 sa grande théorie sur l'origine des espèces, il y a eu un mouvement protestant aux États-Unis qui n'a pas du tout été content, hein, et qui a interdit que, pendant un siècle complet, qui a interdit que cette théorie soit enseignée aux élèves des universités américaines. Ça dure un siècle, mais bon, les enseignements techniques ont évolué, la biologie, les sciences modernes, la génétique, etc. Ça devenait un peu embarrassant de continuer à dire que Dieu avait formé la Terre en 7 jours. Alors les créationnistes ont dit, bon, il faudrait qu'il y ait une science de la création fondée sur la Bible, qui soit enseignée dans les universités, et puis que, bah, que les scientifiques aussi, la science, les enseignements techniques soient enseignés. Et puis, il y a encore eu de l'évolution. Depuis une dizaine d'années, on va dire plutôt que c'est le ID, Intelligence Design. C'est-à-dire une intelligence, alors on ne sait pas trop dire une intelligence supérieure. Eux-mêmes disent, on ne veut pas trop dire Dieu, hein, quelle qu'elle soit, un projet, un dessein supérieur. Mais alors du coup, à quoi sert la Genèse, quoi ? Si même les créationnistes ne vont même plus chercher la Genèse, si la Genèse donc n'est pas explicative, hein, est-ce qu'elle serait spéculative ? Est-ce que c'est un mythe ? Oui, bah oui, on dit que c'est un mythe. Hein, voilà, alors on en vient à dire c'est un mythe. Voilà, bah aussi les Esquimaux ont leur mythe. Hein, ce serait une grande baleine qui aurait mangé la terre. Enfin bon, tout chacun son mythe. Hein, voilà, bon, les chrétiens, ils ont leur mythe. Hein, pourquoi pas hein. Mais en fait, dans les mythes, on s'aperçoit que souvent, ça raconte. Il y a une double lecture. Hein, il y a des forces qui sont en jeu. Hein. Alors. Comment les pères qui ont écrit la Genèse, qu'est-ce qu'ils ont eu comme idée, qu'est-ce qu'ils ont eu comme projet quand ils ont écrit ça hein? En fait, ils ont observé comment Dieu fait. Ils ont observé comment Dieu fait une famille, ils ont observé comment Dieu fait un couple, ils ont observé comment Dieu fait une tribu, un clan. Hein? Ils ont observé et ils en ont déduit comment Dieu a fait l'homme, comment Dieu a fait la création. Alors en fait, ce qu'on va voir, c'est que la Genèse, elle parle pas spécifiquement de la création de l'univers, mais elle parle de la création de l'homme. Je vous explique. Est-ce que j'ai encore une diapo ? Je ne me rappelle plus. Voilà. Ce récit de la Genèse, alors en fait, ce qu'on dit souvent, c'est un chiasme, une espèce de miroir comme ça. Il y a un axe principal, l'axe de la lumière qui traverse le premier, le quatrième, le septième. Le premier, la lumière. Au quatrième, les luminaires. Au septième, la lumière du Shabbat. D'un côté, les eaux d'en haut, et les eaux d'en bas, hein, avec ensuite vont y vivre les oiseaux qui vivent en haut, les oiseaux, les poissons qui vivent dans l'eau du bas. De l'autre côté, le sec et les animaux et les humains qui vivent sur le sec. Hein. C'est extrêmement structuré. C'est structuré pour la mémoire, voilà, pour apprendre par cœur, la mémoire orale. C'est structuré aussi comme dans toute la tradition orale, aussi pour que quand ce soit transmis, on puisse vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Quand il y a une structure, on va vérifier, même quand c'est transmis, ben, on ne se sera pas trompé puisqu'on est bien dans cette structure. Alors le premier jour où il est dit que c'est le tohu-bohu, vous savez, hein, le chaos, les ténèbres, informe et vide, tout ça, ça nous parle de nous, notre chaos intérieur, nos ténèbres, notre abîme. Qui ne voit pas aujourd'hui que l'homme vraiment est dans un grand chaos ? Est-ce que c'est plus dans notre société aujourd'hui qu'avant ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a plus de ténèbres aujourd'hui ? Est-ce qu'on a un grand abîme qu'on essaie de remplir avec tout un tas d'objets qui tombent au fond de cet abîme et il faut recommencer sans arrêt ? C'est un grand, grand chaos tout ça. Et ce chaos ne va cesser que quand la lumière de la connaissance de Dieu va jaillir dans ce premier jour. La lumière de la connaissance de Dieu va jaillir qui va nous permettre de voir et de sortir, de commencer à sortir de notre chaos, de nos ténèbres. Le deuxième jour, ça va être l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Il y a une structure comme ça qui se fait. Dieu crée une verticalité. Vous savez, il y a Carl Staple Lewis, qui est un écrivain chrétien américain, qui a beaucoup écrit dans ses romans sur l'homme qui est courbé. L'homme qui est courbé par le péché. Voilà, on est courbé par tout ce qu'on vit. Et Dieu vient créer cette verticalité. Voilà, l'homme, maintenant, tu peux te tenir debout, il y a quelqu'un au-dessus de toi. Tu peux te remettre dans ta verticalité, il y a quelqu'un au-dessus de toi. Et dans ce troisième jour, où Dieu crée le sec, il met le sec, il met des limites au sec et à la mer. Attention, si tu vas là, tu vas te noyer, tu vas te perdre. Moi, je te mets des limites où tu peux marcher. Suis ces limites, sinon tu vas te perdre. Et on voit aujourd'hui que ces limites, où l'homme sépare ce que Dieu a uni et unit ce que Dieu a séparé, on voit ce que ça donne. Il nous donne une structure aussi pour marcher dans des limites. Et le quatrième jour, ce sont les luminaires qui nous mettent ce calendrier pour que Dieu pose des rendez-vous. Il nous pose des rendez-vous pour qu'on puisse... Ben oui, on a besoin, ou chaque jour, ou à chaque fête, ou dans l'année, il y a besoin d'avoir des rendez-vous précis, une structure de notre temps aussi pour organiser notre temps. Et le cinquième jour, ce sont les grands monstres marins qui sont créés, et aussi les oiseaux, voilà, toute cette, et tous ces grands monstres marins représentent en fait cette force, cette capacité créatrice en nous, cette puissance créatrice en nous. Vraiment, c'est quelque chose, on n'imagine pas, mais à quel point on a une puissance créatrice. Hein. Dans la tradition, on dit que c'est le Léviathan qui est créé à ce moment-là et que les justes mangeront le Léviathan à la fin des temps. Et ce Léviathan, cette force créatrice, évidemment, elle peut devenir une force destructrice. Et là, c'est ce Léviathan qui nous dévore, ce qu'on voit un peu aujourd'hui. Hein. Cette force créatrice, c'est aussi toute la puissance sexuelle qui permet de créer aussi. Hein. Et cette puissance sexuelle, si elle n'est pas maîtrisée non plus, elle aussi, elle peut nous dévorer. Le sixième jour, eh ben, la tradition dit que les animaux ont été créés au début du jour, le bétail, etc. Et puis que l'homme a été créé à la fin du jour pour être juste prêt pour la rencontre avec Dieu le septième jour. Alors on voit que dans cette création, là, c'est comme une montée, voilà, où on va finir, où on va dans un degré qui monte de dignité, hein. Jusqu'à ce que l'homme soit élevé au degré de dignité. C'est nous qui sommes créés en dernier. Hein. Il y a le psaume lui, j'y pense en venant, là, qui dit qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ? Tu en as fait un Dieu. Voilà, tu le couronnes de gloire et d'éclat. Tu le fais régner sur toutes les œuvres de tes mains. Alors, si ce récit de création, hein, où on voit que l'homme est élevé en dignité, hein, il peut aussi devenir un récit de décréation, où tout d'abord l'homme, qui était le roi de la création, peut commencer à descendre pour devenir un petit peu, vous savez, comme le bétail, tout à ses aises, à son confort, à sa télévision. Hein, il peut commencer comme ça. Et puis après, il peut descendre encore pour redevenir un animal sauvage. On en voit des animaux sauvages dans notre société qui tuent, qui décapitent. Il peut descendre encore pour être un animal rampant qui ne sait même plus qu'il a quelque chose au-dessus de sa tête. Et il peut descendre encore pour revenir à son chaos, à ses ténèbres, à son abîme. Donc vraiment, on voit que l'homme, ce récit de la Genèse, donne tout le plan de Dieu pour élever l'homme et que si on ne le voit pas, on peut passer complètement à côté du projet de cette élévation de l'homme jusqu'à la résurrection. Et on sait que ça nous parle de la création de l'homme, puisque le huitième jour, c'est quand même pas au hasard que Jésus ressuscite le huitième jour. Hein. C'est que cette dignité à laquelle Dieu nous a appelés, il nous emmène encore avec lui dans la résurrection le huitième jour. Alors, j'en reviens à ce que je disais précédemment pour conclure. Entre ce récit des scientifiques, ce que nous racontent les scientifiques, et ce récit de la Genèse, alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue à être dos à dos, à se puncher comme ça, à dire... En fait, on s'aperçoit que c'est un peu comme les calques des architectes, hein. Vous savez, les architectes, ils mettent des calques l'un sur l'autre, l'électricité, l'eau, la VMC, tout ça, puis alors on compare si tout va bien là ensemble. Hein. On pourrait dire que c'est deux calques, le calque de la création et le calque de l'homme qui vient se mettre sur sa création. Hein. Les deux récits, vraiment, ce que disent les scientifiques et ce que disent les théologiens, c'est vraiment la même histoire. C'est vraiment l'histoire d'un Dieu qui est génial, d'un Dieu qui est tellement extraordinaire, qui a fait vraiment, qui a une fidélité pour sa création et qui a une fidélité pour sa créature. On voudrait vraiment que les deux ne soient plus dos à dos, ni face à face, mais vraiment côte à côte, qu'ils puissent avoir des relations entre les deux, que nous aussi on soit ouverts à ce que les scientifiques nous disent et ce que les scientifiques puissent être ouverts aussi à ce que, en fait, ce plan caché, ce projet, cette intelligence design, hein, qu'on puisse vraiment reconnaître le plan de Dieu, hein, et reconnaître ce créateur vraiment extraordinaire qui est fidèle, qui est bon, qui est soucieux, qui a vraiment soin de nous. Voilà, et je ne sais plus si j'ai une dernière diapo pour que chacun puisse vraiment louer notre créateur. Voilà, on va prier juste quelques... Seigneur, béni sois-tu pour l'immense... On n'a pas de mots pour qualifier tout ce que tu as créé depuis la fondation du monde, mais aussi ce que tu veux nous révéler dans ta parole, là où tu veux nous élever jusqu'à toi, cette dignité que tu veux nous donner. Seigneur, béni sois-tu pour... pour qui tu es, oui, pour qui tu es et pour qui tu veux faire de nous. Oh Seigneur, si le monde pouvait reconnaître, si le monde pouvait reconnaître ta main, ta fidélité, ton génie. Oh vraiment, nous aurions résolu tout ce dont les infos nous parlent aujourd'hui de cette terre qui se meurt. Seigneur, nous voulons te remercier, te louer encore et toujours. Amen.